C'est une grande joie pour nous tous ce matin d'accueillir la pasteur Magali Girard, animatrice régionale en évangélisation, pour vivre ce culte d'accueil et de reconnaissance des ministères de notre Église. Chacune, chacun est le bienvenu. Nous chantons les cantiques indiqués sur le tableau. Et je vous invite à vous lever pour louer Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu notre Père. Dans ton amour libérateur, tu nous appelles, malgré notre faiblesse, à être tes serviteurs, porteurs de lumière et d'espérance, solidaires de l'humanité. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu en serviteur réconcilier tout homme avec ton Père. Tu as donné ta vie pour nous rendre notre humanité véritable et notre dignité d'enfant de Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, Saint-Esprit. Tu suscites l'Église, tu la rassembles pour l'adoration, tu l'envoies dans le monde, tu lui donnes la force de vivre sa foi et d'en témoigner. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu trois fois saint, pour annoncer l'Évangile. Pour servir chaque prochain, tu fais de nous les ouvriers de ton royaume. Pour construire la communauté, pour aider chacun à prendre part à sa mission, tu donnes à ton Église les serviteurs dont elle a besoin. Et quand il nous arrive de manquer à ton appel, tu nous pardonnes. Et par ton esprit, tu nous donnes la force de nous mettre debout et de continuer. Loué sois-tu. Seigneur. Amen. Et nous poursuivons notre louange en chantant le cantique 21-08. C'est toi, Seigneur, qui nous unis, à la page 236.
C'est toi, Seigneur.
Allons tous au devant de toi, et tu
Jacques et Paul qui viennent d'arriver, qui a la placard des jouets à la garderie qui est ouvert, si vous voulez aller chercher des jouets. Alors, voici le moment des lectures bibliques. Les deux premières lectures seront lues par Christophe. Et puis ensuite, Magali partagera l'évangile et la prédication.
Le premier texte du jour se trouve dans le Premier Testament, dans le livre du Deutéronome, chapitre 4, les versets 32 à 40. Moïse dit : Réfléchissez aux événements d'autrefois, à ce qui s'est passé longtemps avant vous, depuis que Dieu a créé les êtres humains sur la terre. Demandez-vous ce qui est arrivé d'un bout du monde à l'autre. Est-ce que quelque chose d'aussi extraordinaire a déjà existé ? Est-ce qu'on a déjà entendu raconter une chose pareille ? Est-ce qu'un peuple a déjà entendu la voix d'un Dieu lui parler du milieu du feu tout en restant en vie, comme cela vous est arrivé ? Est-ce qu'un Dieu est venu se choisir un peuple au milieu d'un autre peuple ? Non, mais le Seigneur, votre Dieu, lui l'a fait pour vous, sous vos yeux. C'est pourquoi il a envoyé de grandes souffrances aux Égyptiens. Il a réalisé pour vous des actions extraordinaires et étonnantes, des exploits puissants et terribles. Vous, vous avez pu voir clairement tous ces événements pour que vous reconnaissiez ceci. C'est le Seigneur qui est Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Du ciel, il vous a fait entendre sa voix pour vous éduquer. Sur terre, il vous a montré son grand feu et vous l'avez entendu parler du milieu du feu. Le Seigneur aimait vos ancêtres. C'est pourquoi il vous a choisis, vous qui êtes les enfants de leurs enfants. Et il vous a fait sortir d'Égypte lui-même avec grande puissance. Maintenant, il va chasser devant vous des peuples plus nombreux et plus forts que vous. Il va vous faire entrer dans leur pays pour vous le donner en partage. Reconnaissez donc aujourd'hui et gardez dans votre cœur cette vérité. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel et en bas sur la terre. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Respectez ses lois et ses commandements que je vous donne aujourd'hui. Alors, vous et vos enfants, vous serez heureux. Et vous vivrez longtemps dans le pays que le Seigneur, votre Dieu, vous donnera pour toujours. Puis, nous lisons dans le Nouveau Testament, dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 13, versets 8 à 14. N'ayez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour que vous devez avoir entre vous. Celui qui aime les autres obéit parfaitement à la loi. En effet, vous connaissez les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne tue personne, ne vole pas, ne désire pas ce qui ne t'appartient pas. Ces commandements et tous les autres sont contenus dans cette parole. Aime ton prochain comme toi-même. Quand on aime, on ne fait aucun mal à son prochain. Par conséquent, aimer, c'est obéir parfaitement à la loi. Vous connaissez le temps où nous sommes. C'est le moment de sortir de votre sommeil. En effet, quand nous avons cru au Christ, le salut était encore loin. Maintenant, il est plus près de nous. La nuit est bientôt finie. Le jour va se lever. Alors, débarrassons-nous des actions mauvaises commises pendant la nuit. Prenons les armes utilisées en pleine lumière. Menons une vie honnête, comme en plein jour. Évitons de trop manger ou de trop boire. N'ayons pas une vie immorale. Ne nous conduisons pas n'importe comment. Évitons les disputes et les jalousies. Soyez semblables au Seigneur Jésus-Christ. Ne vous laissez pas entraîner par le mal. par vos mauvais désirs. Nous restons assis pour chanter le cantique « Souffle du Dieu vivant » et le spontané des lectures de Pentecôte.
Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 28, à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Onze disciples. Quand vous allez entendre tout à l'heure le nombre de personnes que je vais appeler dans cette assemblée, vous verrez qu'ici, on a fait mieux. On fait mieux. Oui, oui, je commence cette prédication en disant qu'on fait mieux que Jésus. N'importe quoi, les pasteurs de nos jours. Mais en fait, je voulais pas vous choquer. Je voulais juste partager avec vous cette réflexion qui peut venir à l'esprit quand on relit ce texte avec des yeux peut-être nouveaux. Comme vous êtes tous de fins connaisseurs de la Bible et de son histoire, vous allez me dire que, bon, d'abord, les disciples, ils étaient 12, hein, 12 disciples, que Matthias n'a pas encore été recruté en remplacement de Judas, et que les chiffres dans la Bible sont symboliques, et que sans doute ce 11 est à comprendre comme un symbole, le symbole de la totalité, 12, moins 1. Ça, c'est ce que vous me dites, hein, parce que vous êtes bien formés. Ben, moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, réfléchissons sur ce moins 1. Bon, pas sur Judas, mais sur le fait que l'évangile, selon Matthieu, se termine ainsi sur un envoi et une promesse de Christ à un groupe dont il manque quelqu'un, il manque un membre. Ce moins un, c'est une expression que l'on entend parfois dans certaines entreprises, vous savez, pour désigner le subordonné direct. On dit c'est mon un de moins un ou... pour dire celui qui est en dessous de moi, à qui je dois donner des ordres. Mais là, les disciples, ils ont bien écouté l'enseignement de Jésus. Ce n'est pas une question de hiérarchie entre eux. On est d'accord. On peut espérer qu'ils suivent l'enseignement de leur maître, même si ce n'est pas évident. Alors, cette totalité incomplète du groupe des disciples de Jésus, au moment où ils deviennent apôtres, précisément, c'est-à-dire envoyés par leur maître pour aller à la rencontre de toutes les nations, eh ben, cette totalité incomplète, c'est un enseignement très précieux pour une Église. Parce que ce moins un, c'est la place libre qui rappelle la faille possible du disciple. C'est aussi la place du disciple qui va manquer à son groupe. Et d'ailleurs, Pierre, rapidement, dans le livre des Actes, va dire qu'il faut trouver quelqu'un pour remplacer Judas. Mais là, je suis en train de dévoiler la suite. Pour ceux qui ne sont pas au courant, vous pouvez aller lire les épisodes qui viennent dans les premiers chapitres du livre des Actes. Alors ce manque, c'est ce qui permet aux disciples, donc, de prendre pour la première fois leur destinée en main, de manière autonome. Jésus est parti, n'est plus là dans le livre des Actes, et il va falloir qu'ils se mettent à réfléchir de manière autonome. C'est ce qui les pousse finalement à l'action. L'action pour commencer à transmettre autour d'eux l'enseignement reçu de leur maître. Ce manque primordial de ce qui n'est pas encore une église, au sens où nous l'envisageons aujourd'hui, mais qui est déjà une église au sens étymologique du terme, donc ce manque primordial oblige le groupe à porter son regard vers l'extérieur et à regarder ailleurs, à chercher autour de lui des talents, des charismes nécessaires à sa mission. Ce manque, c'est enfin le sentiment pour une église comme la nôtre de n'être jamais assez nombreux, de n'être jamais assez bien pourvus. Et ce sentiment, il peut être présent année après année, même dans une église qui a un très bon pasteur. Ce manque, en fait, ce sentiment de manque, il nous accompagne, il nous permet de comprendre que le groupe, finalement, l'institution ecclésiale, c'est pas finalement l'objectif de notre mission, mais c'est seulement un des moyens que le Seigneur met à notre disposition pour témoigner plus facilement autour de nous de la bonne nouvelle. Il ne faut pas croire que dès le début de l'Église, c'était très facile. Malgré le récit des livres des Actes où on nous parle de discours édifiants où des milliers de personnes sont converties, je revoyais récemment dans une émission de télé sur l'Apocalypse de Jean des historiens qui soulignaient que, contrairement à l'idée répandue, peut-être grâce au livre des Actes, le christianisme, au début, ne s'est pas développé puissamment, rapidement dans tout le bassin méditerranéen, mais plutôt ça s'est fait au cours des trois premiers siècles, petit à petit, de personne à personne, on convertit sa famille, on entraîne dans la communauté son voisin, ses enfants, son conjoint, sa conjointe, etc., ses camarades de travail ou les voisins. Ça s'est fait peu à peu. Ainsi, l'Église en groupe organisé tel que nous la connaissons, elle n'est pas venue si vite que ça. Et ça permet de se rappeler que finalement, l'Église en elle-même, la structure Église, elle n'est que seconde, et même on pourrait dire secondaire par rapport au partage de l'Évangile. Depuis le début de l'histoire de l'Église, il y a toujours donc un moins un nécessaire à sa survie. Un moins un qui ouvre vers l'autre et qui correspond à la dynamique de la mission que nous donne le Christ. Ce manque initial, ce manque du début, il est finalement nécessaire à la naissance de l'Église. Jésus donne son envoi d'ailleurs à ce groupe incomplet et il ne demande pas de le compléter. Parce que le but, c'est pas de remplir l'Église. Le but, c'est de faire des disciples de l'Église. Non, c'est de faire des disciples du Christ. Je sais qu'avec les masques, vous ne pouvez pas répondre. Le but, c'est de faire des disciples du Christ. Et puis, en miroir de ce manque primordial, il y a peut-être quelque chose qui vous a aussi étonné. Il y a le doute présent chez certains disciples. On nous le dit au début, quelques-uns eurent des doutes, puis on passe. Ils doutent de quoi ? De eux-mêmes, de leur vision, de Jésus ? Le texte ne le dit pas. On dirait qu'ils ne s'en préoccupent pas. Et d'ailleurs, même Jésus ne semble pas s'en préoccuper lorsqu'il leur donne leur apostolat. Le doute peut être interprété de différentes manières, mais moi j'ai envie de le voir là comme le pendant spirituel du manque physique d'un disciple. Pareillement, ce doute, c'est intellectuellement ou spirituellement l'ouverture à l'autre. Ce qui peut advenir d'imprévu, ce qui est peut-être d'ailleurs incompréhensible, et incompréhensible parce que pas encore arrivé, quoi. Mais ce doute-là, c'est cette ouverture spirituelle. Le manque et le doute sont tous les deux difficiles à vivre au quotidien, difficiles à porter. Ils nous rappellent que nous ne maîtrisons pas grand-chose de notre vie, et ça, c'est parfois difficile à admettre. Ces failles, finalement, sont aussi des portes ouvertes dans nos esprits qui laissent entrer la lumière de la possible présence de Dieu dans nos vies. Le doute des disciples ici n'est même pas relevé par l'auteur de l'Évangile. C'est la fin de l'Évangile et on nous envoie comme ça, avec le doute et le manque, dans nos vies d'apôtres. Douter de nous, de nos capacités de répondre à la mission confiée par Jésus, douter de la relation que nous avons avec lui, de sa présence devant nos yeux, comme les disciples sur la montagne, douter de sa présence dans nos vies, cela nous pousse à le chercher, à travailler notre relation avec lui, à questionner notre vie de disciple. Ce doute, finalement, c'est le terreau fertile de notre vie d'église, l'église où nous rencontrons celles et ceux qui, comme nous, sont à la recherche de la vérité, c'est-à-dire à la recherche de la présence de Dieu dans leur vie. Et ce qui accompagne le doute, c'est l'effort que l'humain fait naturellement pour le chasser, pour ne plus vivre dans cet inconfort, devant cet abîme toujours présent. Peut-être me suis-je trompé. Est-il possible que ce chemin que j'ai choisi ne mène nulle part ? Dans la lettre de Paul aux Romains, c'est ce que l'apôtre appelle se revêtir de Christ. Dans la version qu'on a entendue, il disait imiter le Christ. Je crois que c'était ça. Mais on trouve dans d'autres versions se revêtir du Christ. Ça veut dire que nous ne sommes pas seuls dans cet effort pour chasser le doute. Et on n'est pas condamné par notre doute qu'il porte sur nous-mêmes ou sur Jésus ou sur notre relation à Dieu. On n'est pas condamné. Revêtir le Christ, c'est selon Paul, pratiquer les uns envers les autres, les unes envers les autres, l'amour fraternel. Il nous indique ainsi l'Église, la communauté des disciples de Christ, comme le lieu où la lutte contre ce doute est possible. Le lieu où le doute, c'est-à-dire les ténèbres dont parle Paul, est chassé. Ainsi, à la fin de l'Évangile, les disciples et nous avec, on est envoyés par Christ avec le manque et le doute dans nos bagages. Ou je pourrais même dire comme seul bagage. Manque et doute sont les compagnons des disciples de Christ depuis bien longtemps. Et si au moment où vous allez prendre une responsabilité dans cette Église, solennellement, liturgiquement, si le doute et le manque vous accompagnent, ne le craignez pas. Et souvenez-vous des paroles de Paul. À travers les ténèbres, à travers les difficultés, donc, le salut s'approche, nous dit-il. Le salut, c'est-à-dire la relation avec Dieu. Et ça, c'est possible, selon Paul, grâce à l'amour fraternel que vous pouvez vivre dans cette Église. C'est pourquoi, pour vous permettre de vous souvenir de cet engagement pris aujourd'hui devant vos frères et sœurs, qui vous aiment et vous soutiennent, j'ai envie de faire un petit cadeau au Conseil presbytéral. Un petit cadeau pour toute l'Église. Il faut un peu de temps. Voilà. Bon, ok, c'est pas un gros cadeau, hein, mais c'est comme la collecte, hein, c'est pas la quantité qui compte. Hein. Ah si, on me dit si dans mon oreillette, le trésorier malade me dit que si. Une aiguille. Oui, mais c'est une aiguille à coudre. Bon, en plus, j'ai pris une aiguille qui n'est pas piquante au bout. Une aiguille à coudre. Peut-être les gens du ministère du patchwork. Je ne sais pas si on va les appeler tout à l'heure. Non, il n'y a pas de ministère. Mais voilà, peut-être, c'est peut-être un ministère à part entière. Peut-être qu'ils pourraient nous expliquer. Une aiguille à coudre, qu'est-ce qu'il y a en haut, au milieu, hein? Un chat. Ouais, un chat, c'est un trou. Voilà. Voilà, je vous l'offre au conseil presbytéral. Je pense que je l'offrirai au président. Le garde. Mettra dans ta pochette. Le chat, un trou en haut, au centre de l'aiguille. Un trou, un manque indispensable à la mission de cette aiguille, et sans lequel, finalement, sans ce trou, elle ne serait pas une aiguille à coudre. Elle serait autre chose. Le manque, le doute, font partie de votre être de disciple du Christ. Ils sont indispensables à l'accomplissement de votre raison d'être. Le fil qui passe dans le chat de l'aiguille, vous êtes en train de vous dire, c'est quoi le fil? C'est quoi le fil? L'amour fraternel. Enfin, c'est ce que je propose. C'est une image. L'amour fraternel qui va vous permettre de relier entre eux tous les groupes, toutes les générations, toutes les familles de votre communauté, et surtout d'aller à la rencontre d'autres communautés pour les relier, pour les faire se joindre. Alors, le tableau final sera certainement superbe, mais surtout, il montrera les résultats de l'enseignement de Christ et la confiance que nous mettons en lui. Lui qui, nous l'a promis, est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Christ est celui qui nous fournit le fil, et sa promesse le rend très solide. Vous pouvez y aller, la couture ne se défera pas. J'aurais pu, et la tentation a été grande, j'aurais pu apporter aussi comme cadeau aux membres du conseil presbytéral, en particulier, un dé à coudre, afin qu'ils ne se picassent point le bout du doigt. Oui, j'utilise le... afin qu'ils ne se picassent point le bout du doigt lorsqu'ils font ce beau travail de couture parmi vous. Mais on m'a dit, non, dans l'église d'Annecy, le dé à coudre n'est point nécessaire. N'est-ce pas? Amen.
Nous allons maintenant procéder à la reconnaissance des ministères de l'Église d'Annecy.